Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
L'interview aujourd'hui a lieu à la poterie Eyri, 40 rue Émile Laurent à Die. Et je suis en face donc de Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Pierre, tu t'es lancé dans la poterie il y a quelques années, même très récemment.
Alors moi, ça fait 5 ans que je fais de la poterie maintenant. Je me suis formé pendant à peu près 2 ans et demi, où j'ai fait en fait, je me suis d'abord formé en Amérique centrale, j'ai appris à tourner au tour à pied. Et après, j'ai fait une formation en France où j'ai passé mon CAP de tourneur en céramique. Et après, je suis venu m'installer dans le Diwa et là, j'ai commencé mon activité.
Il y a 2 ans, tu participais aux Journées européennes des métiers d'art. Je t'avais interrogé aussi, c'était à la Griotte, je crois bien. Depuis, quel est le chemin parcouru en tant que potier ?
Alors, j'ai toujours une partie de mes activités aux ateliers chemin de fer. En fait, j'ai un four là-bas, donc je fais l'émaillage et la deuxième cuisson aux ateliers chemin de fer. Et bah, j'ai ouvert très récemment, là, cet été, mi-juillet, un atelier boutique dans la rue Émile Laurent. Wow.
Pour toi, c'est quel est l'apport de cette boutique justement située en centre-ville ? Est-ce que c'est aussi avoir une visibilité également ?
Alors moi, ça me permet déjà de travailler en même temps, vu que c'est mon atelier ici, donc de travailler en même temps de vendre, parce que sinon, moi, je vends quand même principalement sur des marchés de poterie. Et en plus de ça, ça me permet d'être en contact un peu avec mes clients, vu qu'avant, aux ateliers chemin de fer, je voyais quand même un peu moins de monde passer. Et ça me fait aussi plaisir de faire revivre un peu la rue Émile Laurent qui est plus forcément très très active dans la partie où je suis. Et du coup, d'ajouter des commerces dans le centre, c'est agréable.
Oui, la rue Émile Laurent est une rue un peu à l'écart du centre-ville. C'est avant tout un axe routier. Mais toi, est-ce que tu as le souhait de voir cette rue s'animer plus ?
Ah oui, c'est sûr. Moi, j'adorerais j'adorerais que la partie un peu du centre, Buffardel, Armellerie et Émile Laurent soit active, quoi, ou qu'il y ait un peu des commerces un peu partout. Ça, c'est sûr que ça serait super. Et là, Émile Laurent, on est quelques commerçants encore dans cette rue, mais c'est sûr qu'elle a été un peu délaissée par rapport à la rue Camille Buffardel. Mais on voit, nous, notamment les jours de marché, qu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe dans cette rue, aussi parce que c'est agréable, qu'il y a un peu moins de monde, qu'il n'y a pas forcément trop de circulation de voitures. Et donc oui, c'est super chouette, ouais. Je suis content de rouvrir un commerce ici.
Cette passion pour la céramique, tu travailles dans cette boutique atelier, ça te permet aussi de donner envie aux passants de s'arrêter, de voir ton travail.
Oui, carrément. Ouais. Surtout que je trouve que le métier de poterie, c'est un métier qui a été assez oublié. Et les gens ont très peu de connaissances sur comment sont fabriqués les objets, alors que tout le monde en utilise. Quoi. On en a vraiment dans toute notre maison, on a de la poterie. Et j'ai toujours eu, moi, effectivement, ce truc de vouloir un peu expliquer aux gens comment le métier fonctionne. Donc c'est pour ça que sur le marché, par exemple, de poterie Die, je fais des démonstrations de tournage. Et je donne, là, à l'année, je donne des cours tous les mercredis. Je trouve que c'est chouette un peu de partager le métier, que les gens un peu aussi se réapproprient les objets qu'il y a chez eux et qu'ils comprennent comment ils sont fabriqués et d'où ils viennent, quoi.
Tu parlais de ces voyages d'études en Amérique du Sud pour aborder un peu ces techniques de céramique. Est-ce que tu en as gardé un héritage ou au moins est-ce que ton travail s'en est nourri et on peut le découvrir aujourd'hui ?
Alors, j'utilise des techniques quand même assez différentes de ce que j'ai appris, mais par exemple, j'ai toujours un tour à pied dans mon atelier. que j'utilise, notamment pour faire des grandes pièces, tout ça. Et je l'utilise aussi pour donner des cours, parce que je trouve que c'est un peu le meilleur apprentissage pour comprendre un peu la vitesse qu'il faut donner. Et après, bah, c'est sûr que dans mon travail, j'ai eu la chance en fait que mon premier contact avec la céramique, ce soit un peu un contact assez brut, quoi, où là-bas, ils utilisent vraiment la terre qui vient d'un côté de chez eux, ils utilisent quasiment pas d'électricité dans tout le processus, tout est cuit au bois. Donc voilà, moi, c'est ça que j'ai cherché un peu à retrouver dans mon travail actuel, même si j'utilise pas les mêmes terres, que j'utilise pas les mêmes techniques, mais j'ai un travail quand même très brut où je veux qu'on voit que c'est de la terre, que voilà, l'élément premier c'est l'argile, que voilà. Et j'aime aussi un peu la trace de la flamme, quoi. Donc que ça soit pas cuit et tout dans un four électrique, mais qui est effectivement c'est un peu ce travail de la cuisson, que la cuisson un peu change les couleurs de l'émail, quoi.
En Amérique du Sud, je ne sais pas quel pays précisément, mais est-ce que le potier a vraiment sa place culturelle, même quotidienne, au sein de sa localité ou de la population?
Eh ben oui, carrément. Et c'est ça qui est assez génial justement avec la poterie, c'est que c'est un métier. Bah déjà tout ce qu'on retrouve en fait de toutes les cultures, c'est des pots quasiment, et c'est ce qui nous permet un peu de retracer l'histoire. Et en fait, tous les pays du monde ont leur façon de travailler la terre et ont toujours travaillé la terre parce qu'on a de la vaisselle absolument partout dans le monde. Et effectivement, là où donc moi j'ai appris, j'ai passé une grosse partie de mon temps au Nicaragua. Et là-bas, donc j'étais dans un village de poterie où bah, tout le monde fait de la poterie dans le village. Donc il y a des personnes qui tournent, d'autres personnes qui vont décorer, il y a des personnes qui préparent la terre, voilà. Mais tout le monde est centré autour de la terre dans ces villages-là, quoi. Et on retrouve ça un peu partout dans le monde. En France, on a aussi plein de villages de poterie qui perdurent et qui existent depuis très longtemps. Et même si toutes les techniques à chaque fois sont différentes d'un pays à l'autre.
Ce que je voulais préciser, c'était par rapport à cette notion du potier dans les pays que tu as explorés ou visités, et la place du potier en Occident, en Europe, en France, qui est peut-être plus un produit de luxe que de service.
Ouais,
Est-ce que justement il y a une contradiction avec l'Amérique du Sud où la poterie est quand même plutôt de l'ordre du quotidien, tout simplement?
Eh ben, alors pas forcément. Dans les coins où j'étais, c'était quand même plus de la poterie, pareil pour vendre plus dans le tourisme, quoi. Et là-bas, en fait, la poterie était plus remplacée finalement par le plastique, alors que chez nous, bah, on a quand même de la terre, quoi. Donc, mais c'est plus que ça. Et maintenant, ce qu'on achète, c'est fabriqué en Chine ou ça vient, voilà, de grandes structures. Mais ils ont peut-être moins que par exemple dans les pays d'Asie où ils ont un grand respect encore pour la poterie et ils le considèrent vraiment comme un art, tout ça. Ils ont moins ça quand même en Amérique centrale, même si en fait de par cette poterie, ils essayent aussi un peu de retrouver des cultures ancestrales. Et donc dans les coins où j'étais, ils essayaient justement de retrouver des écrits par rapport à des dieux, des Mayas ou des Nicoya, enfin voilà, de tout avant que les conquistadors arrivent en Amérique latine. Et donc je trouve que cette approche, elle est assez intéressante de par la terre essayer de retrouver un peu les origines de ces coins-là, quoi.
Ce que tu proposes dans ton rayonnage dans la boutique, ce sont des tasses, des vaisselles principalement. Est-ce que il y a parfois aussi des commandes que tu peux produire à la demande de certaines personnes?
Alors oui, je prends aussi des commandes, mais je vais prendre des commandes plutôt sur des objets que je fais déjà. Donc c'est si quelqu'un veut, par exemple, enfin, en gros, moi j'ai une palette de couleurs dans ce que je fais, et du coup, si quelqu'un vient avec une idée de, bah voilà, j'aimerais cette tasse, mais avec cette couleur-là, ça je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et après, je prends des commandes. Donc effectivement, je fais plutôt de la vaisselle. Donc je vais faire tasse, bol, enfin un peu tout ce qu'on retrouve dans sa cuisine. Je fais aussi des théières et j'essaye de faire un peu des objets justement aussi un peu oubliés. Donc je fais des beurre yao, des pots à lactofermentation pour faire la choucroute ou le kimchi. Et je fais aussi des urnes funéraires. Et que voilà, c'est à l'origine, je l'ai fait parce que j'avais des commandes, et du coup, maintenant, j'en fais aussi. Et en plus, il s'avère que le lieu où j'ai actuellement mon atelier, c'était, enfin, des personnes du coin m'ont dit que c'était il y a quelques années, des pompes funèbres.
Les couleurs de tes céramiques, ce sont des créations, des élaborations longues, avec des tentatives, des essais, des échecs. C'est un gros travail, la couleur.
Alors oui, la couleur, c'est un peu le travail le plus long et j'aurais jamais fini de chercher quoi. Donc moi, je fais vraiment de la recherche d'émail. Donc moi, c'est vraiment l'émail qui va avoir une couleur. Et en plus de ça, moi, je me suis un peu limité. Donc pour pas utiliser des matières qui sont extraites dans des conditions pas terribles ou qui viennent de très loin ou qui sont toxiques, je me suis limité à la recherche autour de l'oxyde de fer. C'est un peu l'oxyde qu'on va retrouver le plus sur la croûte terrestre, l'oxyde colorant pour la poterie, quoi. Et du coup, ça fait que j'ai une palette de couleurs donc qui est limitée par ça, mais qui fait que je suis obligé de faire énormément de recherches. Donc en fait, j'ai un peu deux approches. J'ai une approche très scientifique où je connais exactement la formule molaire de mon émail et tout ça. Et à côté de ça, j'ai aussi une approche très empirique où, vu que je fais varier l'oxygène pendant la cuisson, ça va me donner des rendus un peu différents. Donc là, de par ça, je fais aussi des recherches avec des cendres. Donc j'utilise notamment des cendres de lavande qui viennent d'une distillerie du coin qui utilise encore les lavandes pour chauffer les cuves. J'utilise des cendres des poêles à bois ou des choses comme ça. Et du coup, ça, c'est une recherche plus empirique où je connais pas forcément la formule molaire et il faut que je fasse beaucoup d'essais. Et donc, oui, dans mon atelier, j'ai des centaines et des milliers de tests de couleurs qui traînent et que voilà, que j'utiliserai peut-être un jour.
As-tu abordé dans ta formation l'aspect chimique justement de ces couleurs, au moyen de pouvoir les lier, les diluer? Est-ce qu'il y a une approche, est-ce que tu as abordé une formation chimique?
Oui, en fait, alors pendant ma formation de céramiste, j'ai vu un peu toute la partie recherche en émail. Mais en plus de ça, moi, avant ça, j'avais une formation scientifique. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense que ça me tenait un peu à cœur de faire vraiment de la recherche d'émail. Parce que voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la chimie, de la physique dans la première formation où j'étais ingénieur. Donc j'avais fait une formation un peu générale en sciences.
La céramique, tu as débuté cette technique il y a 5 ans, mais est-ce que en amont, tu avais déjà une prédisposition ou peut-être une pratique de la céramique?
Alors pas du tout, en fait j'ai démarré la poterie parce que j'étais ingénieur à l'époque et j'ai décidé en fait que le métier correspondait plus trop à mes valeurs et je voulais un peu tester autre chose et en fait je me suis rappelé à cette époque que mon rêve d'enfance était d'être potier. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Donc, je suis allé rencontrer un premier céramiste au Costa Rica, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et j'ai rencontré comme ça une quarantaine de potiers et potières en Amérique centrale. Et du coup, en fait, je me suis pris au jeu et ça m'a donné envie de pousser un peu plus loin la recherche.
Est-ce que la poterie ou la céramique est forcément universelle? Ou est-ce qu'il y a peut-être des différences de culture liées à la céramique ou...
Alors oui, il y a des grosses grosses différences de culture. Il y a la céramique, ça regroupe énormément de métiers différents. Et il y a aussi en fait ce qu'on appelle les familles de terre en poterie. Ça va être des noms que tout le monde connaît, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Et donc ça va être la faïence, le grès et la porcelaine. Et donc ça en fait, ça dépendait beaucoup de l'argile qu'on trouvait localement à l'époque. Du coup, effectivement, il y a des coins qui sont connus plus pour le grès ou la porcelaine. Par exemple, en Chine, c'est très connu pour la porcelaine parce qu'il y a énormément de veines de porcelaine là-bas. En France, on a beaucoup d'endroits qui sont connus plutôt pour la faïence, des terres qui cuisent plutôt à basse température. Et donc voilà, donc chaque pays, chaque région a ses spécificités, effectivement, en poterie.
La venue sur le Diwa pour toi concordait à cet engagement dans la céramique, est-ce qu'il y a pour toi une source d'inspiration également ou c'est plus un ordre pratique?
Alors moi c'était un petit peu un hasard de me retrouver à Die. En fait j'ai rejoint ma compagne qui faisait une formation en maraîchage ici. Et ça cochait vraiment toutes les cases de ce que je recherchais. Déjà, c'est magnifique, je me lasserai jamais de regarder le Landas. En plus, c'est une petite ville très dynamique, et en plus de ça, c'est entouré de montagnes. Moi, je fais de l'escalade, donc ici, je suis au paradis pour ça. Donc oui, voilà, ça s'est fait super naturellement, quoi. Dès que je suis venu ici, je me suis dit que j'avais envie de rester, quoi.
Sur les travaux que tu proposes, donc tu parlais de ces pots à beurre, il y avait aussi des urnes ou un pot à lactofermentation. Ça, c'est des moyens, des propositions qui te semblent judicieuses aujourd'hui, peut-être une manière de conserver certains aliments. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une recherche encore à continuer dans ce domaine lié à l'alimentation?
Eh ben oui, carrément, c'est des objets qui commencent à revenir un peu à la mode, qui en fait sont des objets qui s'utilisent depuis très très longtemps. Le beurre IAO, c'est un peu l'objet qu'on utilisait pour conserver le beurre à l'époque, quoi. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en fait il a encore aujourd'hui une vraie utilité, même si on a des frigos, tout ça. Pareil, le pot à lactofermentation, c'est sûr que pour faire de la choucroute ou quoi, en fait c'est un pot qui est pratique. Le principe du pot à lactofermentation, c'est qu'on a un joint à eau, c'est-à-dire qu'en fait entre le couvercle et le pot, il y a une espèce de rigole dans laquelle on met de l'eau, qui va faire que les gaz vont pouvoir sortir du pot, mais pas rentrer à l'intérieur. Donc c'est tous ces objets en fait qui à l'époque c'était des inventions quand même assez révolutionnaires et ont été un peu oubliés aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'autres façons de travailler avec beaucoup de matériaux différents et donc c'était ramener un peu au goût du jour ces objets oubliés et en fait effectivement ça fonctionne assez bien et les gens sont assez demandeurs de réutiliser ces objets-là comme par exemple on pourrait d'autres céramistes font des zoya donc pour irriguer des plantes c'est des pots qui sont poreux, qu'on plante dans la terre. Voilà, ça, c'est les choses qui reviennent beaucoup à la mode, qui sont très, très anciennes.
Et il y a, sans en dévoiler, d'autres objets sur cette manière d'utilisation sur lequel tu travailles ou tu cherches encore?
Eh ben, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres objets comme ça qui me viennent, mais je suis toujours preneur en fait dès que quelqu'un me parle d'un objet dont j'ai jamais entendu parler, je suis toujours preneur d'essayer de retrouver un peu l'histoire, de comment ça fonctionnait, quelle utilité ça pourrait avoir aujourd'hui. Oui, carrément, ça, essayer de faire des objets justement qui sortent aussi un peu de juste les tasses, les bols, les céramistes font de façon générale.
Tes propositions dans ta boutique sont variables au niveau des prix
Alors l'entrée, on va dire le premier prix, les petites tasses, elles vont être à 10 euros. Après, ça va de 10 euros à une théière, c'est plus dans les 90 euros. Il y a un peu, on va dire, pour tous les porte-monnaies. Et c'est aussi ce que je voulais faire, autant de la pièce que ce soit accessible, que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens puissent quand même acquérir une pièce, et que moi je puisse quand même en vivre. Donc je suis obligé aussi de vendre des pièces plus chères pour pouvoir moi vivre de mon métier, quoi.
L'artisanat dans le Diwa est très présent. Est-ce que pour toi, cela va de soi ou alors est-ce qu'il y a encore de développement lié justement à la transition climatique? Est-ce qu'on peut peut-être aller à la recherche d'autres outils ou d'autres produits utilitaires liés autour de la céramique?
Oui, moi je pense qu'effectivement il y a plein de choses à faire et que là je pense qu'on est un peu au début de justement d'un retour à l'objet quoi de façon générale et c'est vrai que dans le Diwa je pense que c'est peut-être en avance sur un peu d'autres coins. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artisanat, que les gens ont aussi envie de revenir à des objets où ils savent comment c'est fait, d'où ça vient, et même pour nous, quoi, moi, ça a plus de sens là, de faire ce que je fais là que de faire ce que je faisais avant. Donc je pense que c'est assez important, effectivement, qu'on se sensibilise et qu'on sensibilise les gens à ça, quoi. Que c'est pas forcément anodin d'acheter une pièce qui a été fabriquée à l'autre bout du monde, alors qu'en fait on peut le faire et on sait le faire, en plus on l'a fait et on sait le faire localement, quoi.
C'est une pensée qui est partagée avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que toi, au niveau de la poterie, la céramique. Est-ce que il t'arrive d'échanger ou est-ce qu'il y a peut-être même un réseau qui permette la réflexion sur l'utilité et l'utilisation de la céramique?
Alors pas spécifiquement sur l'utilisation de la céramique, mais c'est vrai qu'on est, on doit être peut-être maintenant, je pense qu'on doit être 12 ou 13 céramistes dans le Diois, quoi, entre de Die à Châtillon-Luc. Et donc on organise ensemble déjà le marché de poterie tous les ans. Et c'est vrai que c'est vraiment un métier où il y a une grosse entraide depuis toujours. Et en fait, c'est un métier qui a survécu par rapport à d'autres métiers, justement grâce à l'organisation de ces marchés qui a toujours fonctionné, quoi. Même si aujourd'hui la céramique est assez à la mode, il y a quand même une période où c'était vraiment en déclin, quoi, il y a 20-30 ans. Et ça a pu survivre grâce à cette entraide entre céramistes qui se sont vraiment serré les coudes pour voilà, sensibiliser sur le métier et garder cette pratique.
Est-ce qu'il existe une affiliation justement pour vous défendre notamment?
Alors oui, il existe. Donc en fait, dans chaque région de France, il y a une association de céramistes. Donc en région Rhône-Alpes, l'association, elle s'appelle Dargile. Et toutes ces associations, elles font partie du CNC, donc du Collectif National des Céramistes, qui justement est en charge de nous défendre aussi nationalement, et notamment nous défendre aussi face à de nouvelles lois, et de faire de la sensibilisation par rapport à ça. Voilà. Donc oui, il y a tout un réseau extrêmement bien organisé, qui est quasiment purement bénévole, juste de céramistes qui s'entraident par rapport à ce métier.
Il y a aussi divers aspects de la céramique utilitaire, la céramique d'art aussi. Et puis, on peut noter dans la première catégorie des objets plutôt de facture commune, et puis d'autres avec une notion esthétique plus poussée. Ça me fait penser, est-ce que la commande publique parfois était friande de ce type de céramique, peut-être aussi pour maintenir aussi cette activité? Est-ce que aujourd'hui la commande publique existe encore à l'adresse des céramistes?
Eh ben, alors, en fait, il y a une manufacture à côté de Paris qui s'appelle la manufacture de Sèvres, qui fait encore aujourd'hui toute la vaisselle justement de l'Élysée et tout ça, et qui est extrêmement pointue et poussée sur le métier de la céramique. Et donc c'est vraiment super que cette fabrique existe encore aujourd'hui, alors que je pense que ça doit quand même représenter un budget assez conséquent, parce qu'elle a permis en fait de garder énormément de techniques de céramique qui aujourd'hui auraient été perdues si on n'avait pas justement eu cette fabrique-là, quoi. Donc c'est un peu l'excellence, on va dire, je pense, de la céramique en France. Et donc oui, c'est effectivement il y a ça. Après, des commandes publiques pour des céramistes indépendants, je pense que doit pas y en avoir énormément, mais il y en a peut-être pour justement plus de la sculpture, des choses comme ça, pour des fontaines ou pour, je sais pas, sur des ronds-points ou enfin voilà, des choses plus artistiques à exposer. Pour de la vaisselle, je pense pas qu'il y ait de commandes publiques, non.
La vaisselle étant un exemple, les objets qui sont proposés dans ta boutique, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail hein, dans la forme. Ce sont des formes que tu as toi-même conçues.
Oui, exactement, oui. Alors moi, je suis beaucoup inspiré par les formes de la céramique japonaise. Et effectivement, là, donc j'ai un panel un peu qui regroupe un peu tout ce qu'on pourrait avoir dans sa cuisine. Et j'essaye toujours de m'améliorer, de trouver un peu la forme la plus pratique. Et en même temps, j'ai quand même un gros. Enfin, j'ai une grosse recherche aussi sur l'esthétique, quoi. Donc c'est ça qui me plaît, quoi. Je veux créer un objet beau, mais je veux aussi qu'il soit extrêmement pratique. Donc il y a toute une recherche, bah, notamment sur tout ce qui est pichet, théière, que ce soit que ça verse le mieux possible, qu'il n'y ait pas de gouttes qui reviennent, que enfin voilà, c'est. Et j'adore en fait ça, de trouver un peu la forme, le diamètre, la hauteur qui fait que l'objet va être le plus pratique à utiliser et le plus confortable.
Il y a aussi cette crise économique, aussi par rapport à l'énergie fossile. Est-ce que cela a été un peu impactant sur ton activité?
Alors oui, bien sûr, hein, c'est sûr que ça, que bah, on voit même que d'une année à l'autre, les gens achètent moins aussi de poterie, et forcément, voilà, ça fait peut-être pas partie des besoins primaires ou quoi. Mais moi, je sens aussi que par contre, y a aussi, enfin, y a beaucoup un peu ce retour à l'objet qui fait que je pense qu'il y a un peu deux courants qui vont un peu l'un vers l'autre et qui font qu'on arrive quand même à vendre et que ça fonctionne quand même. Et là, on le voit en fait sur le marché de poterie de Die qu'on organise tous les ans, que voilà, le chiffre, bah, par exemple, on a fait un chiffre un petit peu moins bien cette année que l'année précédente, mais que le chiffre reste encore très très bon, quoi. Donc c'est chouette.
Il y a aussi l'aspect de solidité. Il y a certainement une plus grande robustesse de la céramique que celle que l'on peut trouver dans des commerces à bon marché.
Alors oui, je pense quand même que souvent c'est que ça reste quand même. Alors en fait, je saurais pas trop dire si effectivement c'est quand même des objets qui sont plus durables et qui sont plus solides, je pense. Mais en plus, je pense qu'on y fait aussi plus attention. On fait plus attention parce que on trouve que l'objet est beau, qu'on voit comment il a été fait, et que du coup, bah, c'est sûr qu'on se prend peut-être moins la tête avec des assiettes qu'on a achetées dans le commerce ou au supermarché, qu'avec une tasse qu'on va acheter chez un céramiste auquel on tient et on y met un peu une valeur sentimentale aussi, quoi.
Je parlais de certaines vaisselles qu'on peut acheter et qui se retrouvent vite ébréchées, hein, parce qu'on ne
Ouais.
sait pas trop pourquoi. Ça, petit à petit, ça se désagrège. C'est lié aussi à cette terre de cuisson moins forte, peut-être.
Alors c'est sûr que généralement on dit quand même que au niveau de la résistance, la faïence souvent est un peu moins résistante que le grès et la porcelaine, et que la porcelaine c'est un peu le plus résistant, ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'on a souvent tendance à croire que la porcelaine est très fragile. Et en fait, la porcelaine est plus résistante, et c'est pour ça qu'on la tourne souvent beaucoup plus fin et qu'elle donne cet aspect un peu de fragilité. Mais c'est sûr que je trouve, enfin, moi je vois par exemple quand je vais chez ma grand-mère, elle a de la vaisselle qu'elle a depuis son mariage, donc qui a 50, 60 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même un peu perdu cette attache aux objets qu'on a chez nous, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui puissent dire qu'ils ont de la vaisselle qui a 50 ans chez eux, quoi. Et donc oui, c'est sûr que je pense qu'on a perdu effectivement un peu en qualité d'objet, quoi. Et que c'est les terres qu'utilisent les grandes fabriques, que ça doit souvent être des terres reconstituées, voilà, qui forcément seront moins résistantes qu'une terre qui a été trouvée dans la nature, quoi.
À propos de la terre, ici, il y a une fourniture assez conséquente, ou alors il faut la faire venir.
Alors moi, ma terre, donc il y a de moins en moins de fabricants, enfin d'extracteurs d'argile en France. Et dans le coin, il y aurait des terres, mais plutôt des terres à faïence. Et donc moi, ce que je fais, c'est du grès. Donc moi, ma terre, elle vient de Charente, d'une petite entreprise. Ça doit être une des dernières entreprises familiales en France qui fabrique encore la terre avec des terres locales autour de chez eux. Donc ils ont des carrières autour de chez eux et c'est vraiment des terres qui vont chercher directement dans la nature et qui préparent juste en la mélangeant avec de l'eau, en la nettoyant et que j'utilise directement quoi. Alors que les grosses entreprises qui aujourd'hui préparent les terres, ça va souvent être des terres reconstituées, où ils vont rajouter du kaolin, du feldspath, des choses dedans pour leur donner les propriétés qu'ils veulent, quoi. Et donc moi, ça me tenait à cœur d'utiliser une terre qui justement soit un peu naturelle.
L'intérêt aussi de pouvoir les conserver, à noter ces objets de l'Antiquité, de la préhistoire, toujours présents ici, à notre époque. Est-ce que pour toi, il y a en quelque sorte une éternité pour la céramique et pour l'avenir?
Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Moi je pense que c'est un des métiers les plus vieux du monde, quoi. Ça existe depuis toujours. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, quoi. On a eu enfin, vraiment de lire juste l'histoire de la céramique, c'est quasiment lire l'histoire, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de comprendre comment les choses étaient faites à l'époque, comment les gens se nourrissaient. Ça a été aussi monnaie d'échange, ça a été aussi voilà, les premiers. Donc c'est ouais, moi je trouve que l'histoire de la céramique est super intéressante, et donc je trouve ça génial de faire perdurer en fait ce métier, quoi, et que justement ils se perdent pas dans une industrialisation ou quoi, et que ça reste justement un métier aussi qui raconte une histoire locale, quoi.
Et puis ces formes qui sont en fait ancestrales n'ont guère évolué, ne serait-ce que par l'esthétique peut-être, mais tout était déjà fait il y a plusieurs dizaines de milliers d'années.
Ah bah c'est sûr que là moi je fais des formes qui existent depuis peut-être plus de 2000 ans quoi. Voilà, par exemple j'aime beaucoup les formes des moon jars, donc c'est les vases lunes qui étaient utilisés en Corée il y a peut-être 1500 ans pour conserver le riz et tout ça. Et oui, en fait il y a, alors même si aujourd'hui on n'utilise pas les objets de la même façon, on va plus avoir des tasses, des mugs, des choses comme ça, qui sont peut-être des objets qui utilisé moins avant, mais c'est sûr que je pense qu'on révolutionne peu le métier, et c'est incroyable de se dire que voilà, on tourne des formes qui étaient déjà tournées il y a 2000 ans, quoi. Donc ça c'est super.
Pierre, merci en tout cas de nous avoir donné un peu de ton temps dans ton atelier Herri Céramique au 40 rue Émile Laurent. Et ta boutique est ouverte tous les jours de quel jour de la
Alors la
semaine?
boutique est ouverte là en période d'hiver. Je suis ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30. Après vous pouvez généralement me retrouver. Je suis assez souvent dans la boutique, même en dehors des heures d'ouverture, je suis là. Donc il n'y a pas de souci.
Et il existe également un site internet.
Alors oui, j'ai un site internet, hericeramique.com, et après j'ai aussi un compte Instagram sur lequel vous pouvez suivre un peu, je poste des photos de mes poteries en cherchant Eri, donc Ery et céramique.
Eri signifie quoi?
En fait, c'était mon surnom quand j'étais en école, les gens m'appelaient comme ça.
Tu travailles dans le silence ou parfois tu as besoin d'une ambiance musicale parfois?
Oui, j'écoute souvent de la musique quand je travaille, j'aime bien. De la musique ou des podcasts ou la radio, ouais, j'aime bien, ouais.
Est-ce que tu aurais une proposition pour finir l'émission?
De musique? Ouais. Alors moi j'écoute pas mal de rap français et j'ai beaucoup aimé l'album L'amour de Dizzy La Peste. Donc ouais, je vous conseille ça.
Au revoir.
Au revoir.
La lumière. rien que de la vie, que de la vibe, que de la graille. Je suis boosté, je suis en roue libre, je suis high, je fais ma tambouille, je fais mon bail. Depuis le time, je suis un enfant, je fous la pagaille. Depuis le time, je veux que des parcs, que des piscines, que des mers, que des plages, que des beignets, que des sorbets, que des glaces, je veux que des étés, que des vacances, que des départs, pas de retour. Que des étés, que des vacances, que des départs, loin des tours, je suis un gosse, qu'a des gosses, je suis un tenable, je suis un crevable, peu importe, j'ai de la force, tout est possible, tout est faisable, jusqu'à ma mort, je serai un gosse, je suis un croyant, je suis incroyable. Je suis incroyable, je suis incroyable. Que de la lumière, que de la vie, que de la vibe, que de la graille. Je suis boosté, je suis en roue libre, je suis high, je fais ma tambouille, je fais mon bail. Depuis le time, je suis un enfant sous la pagaille. Depuis le time. Je fais ma tambouille, je fais mon bail. Depuis le time, depuis le time.